Mazarine Pajot, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, on est très heureux de vous recevoir ce soir à propos du livre de Chantal Delsol et Myriam Revaud-Allonne, Ainsi meurt la démocratie. Donc, un petit mot introductif. Nous ne sommes ni Chantal Delsol ni Myriam Revaud-Allonne, qui malheureusement ont eu un empêchement qui n'aura pas permis de nous rejoindre ce soir. La rencontre devait être animée par Mazarine Pajot, qui est l'éditrice du livre.
Et moi j'étais là, donc
voilà. Et mais voilà, c'est parfait puisque du coup ce livre paraît dans une nouvelle collection que vous venez de lancer qui s'appelle Disputation et dont on va parler. Puisque l'idée c'est de réfléchir à quelles sont aujourd'hui les conditions du débat, pourquoi est-ce qu'il est si difficile de débattre et pourquoi est-ce qu'il est essentiel que nous puissions faire discuter des gens qui ne sont pas d'accord. Puisque le débat meurt probablement de deux choses qui sont d'un côté l'exclusion, l'oukase, l'invective, et de l'autre l'entre-soi, puisqu'effectivement c'est toujours assez confortable de discuter entre gens qui sont d'accord. Donc Mazarine, vous êtes à la fois écrivaine et enseignante désormais à Sciences Po Bordeaux, donc on a le plaisir de vous voir régulièrement dans notre ville. Alors, peut-être pour commencer, avant d'attaquer directement sur le livre de Myriam Revaud-Allonne et Chantal Delsol, dire un peu, effectivement, d'où vous est venue non seulement l'idée, mais pourquoi ça vous semblait nécessaire de faire une collection autour de la question du débat et pourquoi l'avoir intitulée Disputatio, qui est une référence donc historique à une certaine forme de débat.
Absolument, la Disputatio médiévale. Oui, alors, voilà. En effet, on est vraiment désolé de se substituer à Chantal Delsol et Myriam Revaud-Allonne qui ont un petit problème de santé et qui étaient absolument elles-mêmes désolées de ne pas pouvoir venir. Donc, on va essayer d'être à la hauteur. Mais c'est vrai qu'on ne va pas se faire le porte-parole. Donc, on va essayer d'expliquer de quoi il est question à la fois dans le livre et effectivement dans la collection. Alors, la Disputatio, il y a plusieurs entrées, je dirais, pour essayer de rendre compte de cette idée, déjà, de cette idée de collection, qui elle-même s'inscrit dans une idée un peu plus globale, puisque tout naît au départ d'une association qui s'appelle la Disputatio Contemporaine, et qui a réuni plusieurs personnes très, très perplexes quant au niveau du débat aujourd'hui. Pas seulement le niveau du débat, mais le fait qu'il n'y ait peut-être pas d'espace à l'intérieur duquel le débat puisse se tenir. Après tout, où est-ce qu'on débat ? Bon, on débat sur des plateaux de télé, mais on est soumis quand même à une temporalité très restreinte. Donc forcément, ça conditionne le propos. Et on ne peut pas débattre si on n'a pas le temps, tout simplement. Débattre, ça veut dire quand même arriver à déployer, enfin pouvoir déployer un propos dans une certaine durée, écouter l'autre. On sait que l'écoute de l'autre, elle n'est pas très vendeuse, ça ne crée pas le buzz, donc ça ne peut pas forcément s'inscrire dans le format médiatique d'aujourd'hui. Dans les journaux, on a plutôt l'impression aujourd'hui qu'on privilégie les tribunes, les invectives. Bon, c'est sûr que c'est sans doute plus excitant. Il y a quelque chose comme ça de l'ordre de la pulsion, de la jouissance, mais qui ne contribue pas vraiment au débat, quoi. Ensuite, bon, il y a des lieux où on peut encore se réunir, mais finalement, le Covid est passé par là et on l'a bien senti. Et donc, on s'est dit, il faut vraiment arriver par quel petit chemin arriver à remettre au cœur de la société quelque chose qui serait effectivement de l'ordre du débat. La revue Débat venait de fermer ses portes. Et donc, on s'est dit, il y avait une forme qui existait et qui était particulièrement intéressante, effectivement, dans l'enseignement médiéval, qui était de la Disputatio. Alors, il ne s'agissait pas de reprendre à proprement parler le protocole, parce qu'il est hyper compliqué. En plus, il y a 50 variantes, je crois, de la Disputatio médiévale, où c'était vraiment... il y avait le maître, il y avait l'étudiant A, l'étudiant B, l'étudiant C, l'étudiant D. À chaque fois, chacun avait un rôle très différent. Et ça, on peut renvoyer à l'œuvre d'Alain de Libera, qui est le grand spécialiste de la Disputatio médiévale. Mais le grand intérêt de la Disputatio médiévale, c'était l'idée qu'on est obligé d'écouter l'autre. Alors, c'est très violent aujourd'hui d'être obligé d'écouter l'autre. On est obligé d'écouter l'autre parce que la reprise de l'adversaire commence nécessairement par la ressaisie de l'argument de l'autre. Donc, ce qui est très intéressant dans cet exercice, et c'est la raison pour laquelle on a voulu la remettre au goût du jour, et puis il y aura d'autres raisons annexes que je vais essayer de déployer, c'est en effet cette idée que dans la Disputatio, le protocole est tel que l'un commence et que l'autre reprend la conclusion ou l'argumentation du premier, en la résumant évidemment, pour pouvoir apporter ensuite son argument contraire. Et donc, il est obligé de penser contre lui-même, quoi, en quelque sorte. En tout cas, il est obligé de comprendre ce que l'autre a voulu dire. Alors, ça ne crée pas nécessairement du consensus à la fin, mais... Et d'ailleurs, ce n'est pas forcément l'objectif, hein, parce qu'il faut garder une forme de pluralité. Mais néanmoins, ça apprend quand même à essayer de se déplacer, à essayer quand même d'entendre ce que l'autre dit. Et peut-être quand même à trouver, alors ni un compromis ni un consensus, mais peut-être quand même des lieux, des points de, enfin, voilà, où, sinon d'accord, du moins d'acceptation, on va dire. Et donc ça nous a paru vraiment intéressant. Donc on a créé cette petite association, laquelle association s'est déployée selon trois axes. Un premier axe qui sera un axe, c'est encore en chantier, un axe d'archives où on essaie justement de voir toutes les modalités du débat, de la négociation, de la diplomatie, enfin comment aujourd'hui ça fonctionne ces choses-là, quels sont les différents modes d'échange. Des archives aussi de disputatio sur la disputatio médiévale, des articles plus savants là-dessus. Bon, voilà, ça c'est un pôle un peu académique, on va dire. Un pôle qui relève plus du spectacle et qui consiste à faire des disputatio en vrai. Et donc, c'est à la fois un exercice pédagogique, je dirai plus tard les vertus pédagogiques de l'exercice, mais aussi un exercice assez théâtral en réalité, puisqu'on voit les uns et les autres s'opposer dans quelque chose de très, de très posé, de très orchestré. Et donc, c'est très intéressant. On en a fait une à la Sorbonne, j'en reparlerai tout à l'heure, mais c'était vraiment passionnant de voir. On avait plusieurs niveaux, des lycéens, des étudiants et puis des gens de la vie civile qui se sont prêtés au jeu. Et c'était très, très émouvant de les voir travailler apprendre à parler, mais aussi à écouter. Donc c'est vraiment cette double dimension qui était importante. Et enfin, la troisième piste, la troisième voie, qui était celle de la collection. Donc j'arrive à notre collection, et c'est celle que j'ai prise en charge avec ma camarade et amie Sophie Nordman, qui est prof de philo comme moi, et avec qui on s'est dit, c'est aussi ça serait une jolie manière de rouvrir aussi un espace public qui serait l'espace du livre. Et donc on s'est dit, alors comment faire? Est-ce qu'on les met ensemble? Est-ce qu'on les fait se réunir? On les lance sur une question? Et alors, il y a plusieurs problématiques. Enfin, au début, il y avait plein d'idées comme ça qui surgissaient, qui ont choisi, parce que c'est pas facile de faire des couples qui acceptent de parler alors qu'ils s'entendent pas. Tout le monde a déjà fait l'expérience. Comment faire pour que, des intellectuels qui se sont insultés par médias interposés, comment faire pour arriver à les réunir et qu'ils acceptent quand même de s'adresser la parole? Plus que ça, de dialoguer de manière authentique. Grande difficulté, la création des couples, le casting, j'oserais dire. Deuxième difficulté, comment on fait? On les réunit là, on enregistre. Et puis, le Covid est passé par là, et en même temps, tant mieux en quelque sorte. En tout cas, pour ça, parce que pas pour d'autres, évidemment, d'autres raisons, parce que c'est très rapidement imposé la forme épistolaire. Et c'est vrai que la forme épistolaire, en réalité, est la forme adéquate de la disputatio. D'abord parce que, on a affaire en général à des intellectuels qui écrivent, donc c'est quand même leur manière, leur expression privilégiée quand même, l'écriture, parce que ça laisse le temps de la réflexion, plus que si c'était un exercice oral immédiat. On a découpé ça par lettres relativement courtes pour que chacun puisse déployer un ou deux arguments, mais sans non plus faire des tunnels et que l'autre puisse plus répondre. Enfin, il y avait quand même l'idée de rester dans quelque chose de très vivant. La lettre permet à la fois de déployer une argumentation extrêmement serrée, mais aussi d'incarner le propos avec cette idée de je vous écris de, je sais pas, de Hambourg où il fait très beau, enfin je dis n'importe quoi, mais il y a cette idée qu'on voit la pensée en acte, mais aussi dans la vie, quoi. La possibilité de faire des références hors de la disputation, expliquer pourquoi tel ou tel sujet nous tient tellement à cœur, indépendamment du fait qu'on y croit ou que rationnellement ce soit démontré, mais aussi peut-être parce que quand on était enfant, on a vécu telle chose. Enfin voilà, ça permet d'hybrider, je dirais, les manières d'appréhender un problème, à la fois rationnellement, mais aussi affectivement. Et donc ça, c'est très agréable parce que bon, quand les philosophes parlent, c'est pas toujours très incarné. Et ça, ça permet vraiment, je trouve, d'incarner la pensée. Et puis ensuite, ça renoue avec une tradition qui est bon, la tradition des Lumières. Et même avant, Descartes, je pense à Descartes puisque c'est un grand auteur, mais les philosophes du XVIIe siècle échangeaient évidemment par lettres. Toutes les correspondances de Leibniz, Descartes, Spinoza, etc., c'est là aussi où se faisait leur philosophie. Et donc, c'est aussi une pendant les Lumières, c'est une manière de renouer aussi avec cette tradition un peu perdue, qu'on a un peu retrouvée avec les mails, grâce aux mails, c'est vrai. Mais bon, on est toujours pressé, il y a des correcteurs automatiques qui racontent pas les choses qu'on voudrait dire nous-mêmes, et puis après on se relit, on s'aperçoit que bon, bref. En tout cas, le mail, qui est quand même une manière de renouer avec l'écrit, enfin, moi je trouve que ça nous a permis de nous remettre dans un rapport écrit aux autres, ce qui était quand même formidable. Néanmoins, là, il y a quand même le temps de la réflexion, etc. Et donc, voilà, c'était assez formidable aussi de renouer doublement avec la disputatio et la correspondance.
Mais c'est très important que vous évoquiez Descartes, parce qu'effectivement, quand on lit les méditations métaphysiques, la partie qu'on appelle les objections et réponses, absolument, désormais, font partie de l'œuvre elle-même. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est pas, il y a l'ensemble du texte théorique écrit par Descartes, mais tous les échanges qu'il a avec tous les interlocuteurs, on voit à quel point ça fait affiner, évoluer, progresser la pensée. Exactement. Et là, typiquement, dans l'échange entre Chantal Elsol et Myriam Revaud-Allen, on voit aussi ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas, elles ont toutes les deux un statut dans le champ intellectuel qui fait qu'il n'y a pas l'idée de prendre le pas l'une sur l'autre. Et l'idée, c'est faire en sorte de comment est-ce que je peux intégrer, c'est là où on rejoint la disputation, l'argument de l'autre pour dire non, ce n'est pas possible d'aller jusque-là, et au contraire, moi je pense que, etc. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles ce livre est si stimulant. Alors justement, vous évoquiez la constitution des couples. Ouais. Pourquoi celle-là ? Pourquoi ces deux figures-là ? Qu'est-ce qui vous semblait intéressant ?
Alors là,
de les choisir.
C'était d'une certaine manière assez facile pour ce couple-là, parce que elle représente des positions très polarisées et très claires dans le champ intellectuel, l'une qui se revendique de droite et l'autre qui se revendique de gauche, pour le dire très, très simplement et très rapidement. Et elles-mêmes l'ont dit, je les écoutais l'autre jour donc, sur France Culture, où c'est Chantal Delsol qui a dit, pour être simple, moi je suis de droite, Myriam est de gauche, voilà. Donc ça pose un petit peu la différence, mais encore faut-il de s'entendre sur qu'est-ce que ça veut dire, bien sûr, qu'est-ce que ça veut dire être de droite et qu'est-ce que ça veut dire être de gauche. Et donc à partir de cette polarisation claire, il était possible de les faire se rencontrer. Ensuite, elles l'ont accepté. C'est-à-dire qu'elles ont cette conscience chevillée au corps et cette passion démocratique qui consiste à accepter de parler avec l'adversaire, quoi. Parce que c'est un exercice démocratique. C'est pas facile. D'autant plus que l'autre, on peut se dire, va l'emporter. En tout cas, on se met un peu en danger.
Alors, sachant que c'est très important ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que le fait qu'elle se positionne clairement sur les deux, sur l'échec, on va dire électoral ou intellectuel, parce que les deux sont liés sans se recouvrir complètement, c'est très important, l'idée qu'elles vont discuter sans avoir comme horizon le fait de se rejoindre. Et l'une et l'autre disent d'ailleurs dans le livre que probablement l'un des problèmes du débat, c'est cette idée qu'on va sortir de l'impossibilité du débat par le dépassement des rapports droite-gauche. Et au cœur du livre, c'est vraiment la conviction inverse. C'est-à-dire que si on veut qu'il y ait véritablement un débat, c'est-à-dire que des idées émergent, il faut qu'il y ait des positions opposées. Mais, alors on y reviendra parce que c'est une notion importante aussi soulevée par les deux, non pas dans un rapport d'ennemis, mais dans un rapport d'adversaires. Et qui sont, je pense, philosophiquement un enjeu assez crucial. C'est-à-dire que l'adversaire et l'ennemi, on n'a pas le même rapport. Il y en a qu'on veut abattre et l'autre avec lequel on est prêt à discuter. Et ça, cette idée du positionnement droite-gauche comme étant des positions fermes par rapport auxquelles, dont le dépassement serait non pas une victoire, mais au contraire une défaite de absolument la pensée, ça, c'est un enjeu essentiel du livre.
Absolument. Et là-dessus, elles sont d'accord. parce qu'elles sont d'accord sur quand même pas mal de choses. Oui. C'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, on les voit avancer l'une l'autre, dire maintenant, là, c'est vrai, vous avez raison. Enfin, oui, bien sûr. C'est-à-dire que c'est presque ce premier ouvrage sur la démocratie. Il y en aura d'autres, puisque c'est une collection qui traiteront d'autres sujets. Mais Sur la démocratie, c'est effectivement une mise en abîme, dans la mesure où elle prouve, par l'écriture elle-même, en tout cas par l'existence de ce livre, que la démocratie, c'est d'accepter la conflictualité. Et que la conflictualité, c'est ce qui nourrit la démocratie. S'il n'y a plus de conflictualité, il n'y a pas 36 manières d'abolir la conflictualité. Il y a soit d'un côté la pensée unique et les autres n'ont plus le droit de parler, on voit ce que ça peut donner, soit considérer que et l'autre option, enfin donc soit on va dire un régime autoritaire, soit un régime technocratique où il n'y a pas à discuter parce que les choses sont scientifiquement établies. Et donc, à partir de ce moment-là où tout peut se régler administrativement et où il n'y a plus de débat à avoir sur l'interprétation des mots, des concepts, des politiques à avoir, bon, bah, effectivement, ça nuit à la politique. Et donc, l'une comme l'autre, des deux côtés de l'échiquier, sont extrêmement critiques contre l'affaissement du politique à travers une forme de victoire de la technocratie, quoi. C'est-à-dire cette idée que, bon, il n'y a pas à discuter, quoi. Oui, il y a juste à connaître. Les sachants, les experts pourront régler tous les problèmes.
Avec cette idée qu'il y a un horizon aussi, la technocratie a comme horizon le critère de l'efficacité.
Absolument.
C'est-à-dire qu'au final, c'est pas ce qui compte, c'est que ce soit efficace, voilà. C'est que ça marche.
Voilà, donc ça, c'est les deux sont critiques sur ce point, donc elles se rejoignent sur ce point. Elles critiquent de manière très, très intéressante, hein, je trouve, la rationalité économique, le fait qu'effectivement l'efficacité soit devenue la valeur suprême, alors de feu la politique, on va dire, enfin, en tout cas d'une pensée économique qui se serait substituée aux politiques. Qui fait que les gens n'ont plus voix au chapitre puisqu'il n'y a plus rien à débattre. Enfin, c'est ça le problème, c'est où se trouve le peuple du coup, enfin, où se trouvent les électeurs, s'il doit choisir entre ce qui est efficace et moins efficace, on n'est plus dans le débat d'idées, on n'est plus dans la réflexion collective. Et donc, en effet, l'efficacité, en plus, l'efficacité, ça ne veut rien dire. L'efficacité au nom de quoi? C'est bien ça la question. Mais ce au nom de quoi, il est un petit peu mis sous le boisseau. C'est-à-dire que c'est bien ça qui n'est plus questionné. On voit bien, enfin, on l'a bien vu avec la crise du Covid, hein, l'efficacité managériale de l'hôpital public, on voit que ça n'a pas été si efficace que ça. Donc, de quel type d'efficacité on parle, évidemment? Et cette terminologie même d'efficacité, elle est empruntée à l'entreprise et les deux sont très critiques sur l'idée de la gouvernance, l'idée que la gouvernance se serait substituée au gouvernement et aux politiques, au sens fort du politique, quoi.
Ce qui est l'une des grandes forces, on va dire, du gouvernement technocratique, c'est de faire croire qu'il n'est pas une idéologie.
Bien sûr.
C'est-à-dire qu'il est débarrassé justement d'idéologie qui serait un élément encombrant de la démocratie. Et là, pareil, on rejoint ce que vous dites et le livre lui-même. C'est-à-dire que tout ce discours qui a été déployé consiste à dire finalement que aussi le critique était fait à la 4e République, les débats sans fin, l'idée que tout ça ne marche pas et que si on veut avancer, il ne faut pas débattre puisque, comme vous le disiez, c'est le raccrochement au wagon de la science avec une vision de la science elle-même assez limitée, par lequel on sait ce qu'on fait parce qu'on a raison et on a raison parce qu'on sait ce qu'on fait.
C'est Chantal Delsos qui le dit, je crois, c'est un retour au platonisme, cette idée qu'il y a une science dont certains privilégiés ont les clés ou que certaines têtes pensantes peuvent arriver à connaître et à comprendre et donc à appliquer. Platon qui aurait retrouvé Saint-Simon, cette idée que on peut tout à fait gouverner les hommes comme on administre les choses. Et effectivement, ce double héritage philosophique est fortement critiqué par l'une comme par l'autre, mais à travers un angle très différent. C'est ça qui est intéressant, c'est que malgré cet accord sur la critique de la technocratie, qui effectivement se dissimule en tant qu'idéologie, bien sûr que c'est une idéologie, comme tout ce qui relève de la politique, mais c'est une idéologie qui se masque en tant qu'idéologie, d'où effectivement peut-être le danger qu'elle recèle. Et donc là-dessus, elle porte une analyse assez fine et assez intéressante, et en effet sur laquelle elles se rejoignent, ce en quoi effectivement, elle, enfin, là-dessus, elle voit que ça peut être un danger, puisqu'on peut reprendre le titre « Ainsi meurt la démocratie », ça peut être l'une des raisons de la faillite ou de la mort lente de la démocratie. Hein, c'est l'une des raisons qui est convoquée pour expliquer cette espèce de, d'affaiblissement, de fatigue démocratique. Mais évidemment, après, elle l'explique différemment. Enfin, elle donne une interprétation un peu différente.
Là où elle commence à diverger l'une et l'autre très fortement, c'est comme justement par le rapport à, sur l'analyse des causes. C'est-à-dire que d'un côté, on va dire Chantal Delsol semble plus convaincue que l'idée que l'affaiblissement de la démocratie vient par rapport à une sorte de déviation par rapport à ce qui serait son idée originelle dans justement le rapport au peuple, à l'autonomie et ce type de choses, alors que on va dire Mireille Monvaux-Dallon a une vision beaucoup plus souple, ce qui ne veut pas dire floue, de la démocratie qui, pour elle, actuellement ne fonctionne pas bien justement pour la raison que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire une forme de technocratie et de rapport à la vérité la tue, alors que la démocratie, finalement, son horizon, c'est un horizon d'émancipation, qui n'est pas forcément déterminé. C'est ça qui est une pensée assez fine dans la part de Mireille Monvaux-Dallon, c'est-à-dire que les gens y adhèrent parce qu'ils savent que c'est un régime qui permet un horizon d'émancipation sans qu'on dise précisément laquelle. Ouais. Alors que du côté de Chantal Delsol, c'est l'idée, c'est le commun mais comme unité du groupe social, ce qui est quand même deux choses assez différentes.
Ouais. Bah, c'est tout le paradoxe de la démocratie et c'est elles ont le mérite, enfin en tout cas leur dispute et leur dissensus a le mérite de mettre en exergue le paradoxe de la démocratie. La démocratie, ça peut pas faire rêver parce que ça ne promet rien. Ça ne promet pas, au contraire, des grandes idéologies, ni des lendemains qui chantent, ni un bonheur pour le peuple assuré, ni une richesse partagée. Enfin, bon, ça ne promet rien, donc c'est déceptif. Et en même temps, il y a cet horizon d'émancipation, mais d'émancipation qui passe à la fois par l'individu et par le collectif. Alors, c'est là où elles ne vont pas être tout à fait d'accord sur c'est quoi un individu et c'est quoi un collectif. Et c'est là où les divergences, effectivement, commencent à être non seulement grandes, mais surtout porteuses de conséquences politiques. Autre problème de la démocratie, et ça, c'est vraiment lien, comment on pense l'unité, en fait ? Comment on pense le commun ? Dès lors que, par définition, dans une démocratie, une voix égale une voix. Donc la démocratie, elle fait au contraire, elle s'ouvre à la pluralité, elle se nourrit des différences, de cette pluralité, de ce conflit, enfin, du débat, etc. Donc ce dont on parlait tout à l'heure, c'est ça qui la rend vivante. Et donc c'est précisément parce que les gens ne sont pas d'accord et que chacun a une position, il veut bien écouter celle de l'autre, s'il n'est pas trop intolérant, mais ce qui est intéressant, c'est justement cette espèce de grande richesse quoi, et de grande pluralité. Mais à partir du moment où on considère que la démocratie vit cette pluralité, comment, à contrario, penser l'unité ? Il faut bien quand même penser du commun. Alors là-dessus, elles ne sont pas d'accord. Pour Chantal Delsol, et c'est la réponse qui s'inscrit là aussi dans une tradition, le commun, il vient de ce qu'elle appelle la culture. En fait, toutes les deux vont utiliser toujours les mêmes mots, mais chacune va mettre des définitions différentes, voire contraires, sous ces mêmes mots. Et c'est aussi un des problèmes aujourd'hui du débat. C'est qu'on peut pas... En fait, on parle avec le même langage, mais il y a des énormes malentendus sous le terme liberté, le terme peuple. Alors, chacun va s'approprier le peuple. On voit bien dans les discours politiques, on a quand même subi une campagne très récente. On voit bien que le peuple, à chaque fois, c'est l'un, c'est l'autre. Le terme de commun, ça ne veut pas dire la même chose. Le terme de culture. Donc, le terme de culture, pour Chantal Delsol, ce qui fait l'unité d'une démocratie qu'elle confond un petit peu avec, avec, on va dire, les limites nationales. C'est justement l'unité culturelle, historique, on va dire en gros les racines judéo-chrétiennes, qui ferait l'unité du peuple français. Bon. Alors certes, c'est pratique parce que ça pose une unité qui permet d'imaginer un avenir commun, d'imaginer des solidarités. Mais enfin, c'est un peu excluant aussi. Du côté de Mireille Monvaux-Dallon, c'est pas du tout le ferment culturel qui va dire l'identité, puisque au contraire, la démocratie doit incessamment se renouveler, aspirer de nouvelles diversités, s'ouvrir justement à des altérités, et puis à chaque fois les intégrer, etc. Et donc, le commun, il est plus, on va dire, pour elle, du côté, alors, soit du projet émancipatoire, soit du côté des institutions, qui créent quand même du commun. Il y a des institutions qui sont... qui donne lieu à la matière, presque, de, à la substance, je dirais, du régime démocratique. Et, mais dans les deux cas, de toute façon, c'est, enfin, évidemment qu'il n'y a pas une unité définitive, sans quoi ce serait la mort. Mais le problème, c'est que si on se passe complètement de la pensée d'une certaine unité à l'intérieur de la démocratie, c'est compliqué aussi d'essayer de mener une politique qui satisfasse le plus grand nombre. Donc voilà, elles permettent de mettre au jour des paradoxes qui sont inhérents à la démocratie. De toute façon, Churchill disait, mais je vais mal le dire, Pierre, aidez-moi, que c'est le moins mauvais des, enfin,
des régimes, à l'exception de tous
voilà,
les autres.
Merci. Dès qu'il y a une citation, forcément, je la loupe. Et donc là-dessus, c'est vrai. C'est-à-dire que ça reste le meilleur régime possible, mais qui est plein de contradictions, par définition. Et donc, ces contradictions la nourrissent, mais peuvent aussi la détruire. Et en fait, c'est un petit peu le propos des deux auteurs.
Oui, avec d'un côté, finalement, Del Sol, Chantal Del Sol, qui dit que la démocratie meurt de ne pas affronter certains sujets, ouais. Et qui sont entre autres les sujets justement liés à l'identité. Et alors que pour Myriam Revaud-Allonne, au contraire, elle meurt de ce qu'elle appelle la folie identitaire.
Exactement.
Parce que l'une des idées de Myriam Revaud-Allonne, c'est de dire que le même et le commun sont deux choses très différentes. C'est-à-dire qu'en fait, le commun, ce n'est pas simplement le fait de se ressembler, mais c'est le fait de partager. Donc on passe plus du côté, on va dire, de la valeur d'où, ce que vous évoquiez aussi sur la question des institutions. C'est plus de ce côté-là que va se nouer le commun. Parce qu'il me semble qu'il y a un manque, c'est pas un manque, parce que tous les sujets peuvent pas être abordés, mais il y a une question qui n'est pas du tout abordée dans le livre, qui est l'articulation démocratie-république. C'est-à-dire que, alors c'est un peu un truisme de la philosophie politique, mais qui est une question très importante, ouais. C'est-à-dire que, et qui, dans nos esprits aussi, souvent est un peu recouverte, particulièrement en France, où en plus on va rajouter la couche de la nation, histoire de bien mélanger ces trois choses-là, qui à la fois sont très liées et très distinctes. Alors je sais pas si vous peut-être nous éclairer un peu sur ces écarts-là, parce que je pense que c'est important aussi, dans vous disiez, le débat souffre de la question de l'homonymie, ouais. Et d'attribuer des sens différents à des mêmes mots, alors que je pense que l'idée que la République soit complètement absente de leur échange est importante aussi, je pense.
C'est vrai que ça n'a pas du tout été un angle pris, alors que la disputation que nous avons fait donc à la Sorbonne, le grand événement qu'on a fait... avec une leçon donc inaugurale de Jean-Claude Milner était précisément sur cette question, sur la question des droits de l'homme et sur la question république, démocratie. Et donc lui, c'était très intéressant hein, parce qu'il articulait justement les deux en disant une démocratie sans république, ben c'est il y a pas de garantie des droits pour peut-être justement pour les minorités, pour l'individu contre la foule. Mais une république sans démocratie, ce qui est déjà arrivé, une république sans droit de vote, etc., ça peut aussi donner lieu, évidemment, au régime totalitaire, pas totalitaire. Et donc, c'est l'articulation des deux qui permet à la démocratie de vivre de manière saine et inversement à la république de déployer toutes ses vertus. Alors, c'est vrai qu'elles ne sont pas allées de ce côté-là. Elles sont vraiment restées sur le côté de la démocratie, quitte même, en revanche, à aller interroger ce qu'on pourrait appeler une pathologie de la démocratie ou pas, qui sont les démocraties illibérales. Donc, ces démocraties, justement, autoritaires, enfin, les régimes autoritaires qui se disent être des démocraties. Et clairement, Chantal Del Sol ne trouve pas tout à fait incompatible l'idée qu'une démocratie puisse s'assortir d'un régime fort. Au contraire de Myriam Revaud-Allonne, qui dit en gros, ça veut rien. Une démocratie libérale, c'est une contradiction dans les termes. Ça ne veut rien dire. Le peuple ne peut pas élire ce qui vient lui nuire ou ce qui vient le contredire. Donc voilà deux positions tout à fait différentes, mais qui sont toutes les deux intéressantes. C'est ça qui est assez stimulant, c'est qu'à chaque fois on se dit oui quand même. Même si on n'est pas d'accord, on se dit bah oui quand même. Par exemple, quand Chantal Del Sol dit une démocratie va mal quand on n'entend pas ces minorités. Enfin, alors là, pour le coup, elle parle plutôt des minorités qui sont plus si minoritaires que ça, d'ailleurs, du RN, enfin voilà, d'une pensée contestataire d'extrême droite. En gros, elle dit, ben, quand on se bouche le nez et qu'on ne veut pas les entendre, il y a un problème pour la démocratie. Elle n'a pas tort. Je veux dire, oui, ils font tout autant partie du peuple que, enfin, évidemment. inversement, enfin, c'est pas non plus que, enfin, Myriam Revaudelaine dit pas, il faut se boucher le nez, hein, mais en revanche, elle dit c'est un danger, faut des garde-fous, faut, enfin, voilà. Donc c'est pas la même manière d'appréhender le phénomène des minorités et des minorités des deux côtés, puisque l'une va plutôt parler de minorités d'extrême droite, l'autre va plutôt parler des minorités, qu'elles soient, alors toutes les minorités, hein, qu'elles soient de genre, qu'elles soient des minorités sociales ou qu'elles soient d'origine, enfin bon, les différents types de minorités dont on entend les revendications aujourd'hui. Les deux, évidemment, déjà ne s'intéressent pas tout à fait aux mêmes minorités et qui, encore une fois, qui ne sont pas forcément d'ailleurs des minorités et ne les incluent pas du tout de la même manière, enfin ne les pensent pas du tout dans la même dynamique. Donc ça aussi, c'est intéressant parce que évidemment que la démocratie, par rapport à cette idée du commun, doit s'intéresser à la question des minorités. Comment on travaille cette question de la minorité par rapport à la majorité? Ça aussi, c'est une question centrale qu'on voit évidemment chez Tocqueville. Enfin, la dictature de la majorité. Enfin, comment arriver effectivement, par définition, dans une démocratie où on vote? Bon, bah, c'est la majorité qui l'emporte. On fait quoi de la minorité, quoi? Déjà, rien que ça.
Ce qui est l'un des arguments, justement, Chantal Delsol, en faveur, c'est peut-être beaucoup dire, mais par rapport aux questions des démocraties dites illibérales, qui est de dire, mais il y a eu vote, donc il y a eu expression de la majorité, donc à partir de là, on peut être en désaccord idéologique avec les idées défendues par tel ou tel gouvernement, mais on ne peut pas dire que ce ne sont pas des démocraties. Ce à quoi, et là je pense que c'est un argument qui est très important aussi de la part de Myriam Revaud-Allonnes, elle objecte, alors pas forcément aussi frontalement, mais est-ce qu'on peut complètement recouvrir la démocratie par le vote? C'est-à-dire, est-ce que le vote est l'une des briques centrales, essentielles de la démocratie, ou est-ce que la démocratie, c'est le vote, un point, c'est tout? Et là, je pense qu'aussi, c'est probablement une tension qui est assez importante.
Oui, bien sûr. Pour Myriam Revaud-Allonnes, la démocratie, c'est pas que le vote. C'est pas tous les cinq ans. On n'est pas démocrate tous les cinq ans. La démocratie, c'est un engagement citoyen au niveau local, enfin, à toutes les échelles. Il y a un travail, il y a un engagement démocratique. C'est vrai que c'est très intéressant que la démocratie, et c'est quelque chose aussi qui se perd, hein, ça participe de cette fatigue démocratique. C'est quelque chose qui se perd et en même temps, c'est quelque chose qui revient aussi à travers toutes les expérimentations de démocratie participative, délibérative, enfin toutes ces nouvelles formes qu'on essaye quoi, pour essayer de retrouver du sens, pour essayer de retrouver de l'engagement, pour essayer de repenser qu'est-ce que ça veut dire être citoyen, tout simplement. Mais c'est vrai que si on s'en tient uniquement au vote, et puis bon, d'autant plus lorsque le vote il obtient une telle abstention, c'est pas la bonne manière de le dire, mais il est confronté à une telle abstention, bien sûr que ça remet en cause la légitimité du vote, enfin en tout cas pas la légitimité du vote, mais la légitimité de la prétention du vote à être la seule expression démocratique. Évidemment qu'il faut entendre les autres voix et les autres formes de manifestation, que ce soit celle de la colère, pas toujours bien transformée, ou que ce soit celle des minorités. Évidemment que le vote ne suffit pas. Et donc là-dessus, elles ne sont pas tout à fait d'accord également.
Sachant que ce qui est important, parce que vous évoquiez la notion de fatigue démocratique, mais qui peut s'entendre de deux façons, c'est-à-dire à la fois le fait que la démocratie, c'est sa faiblesse aussi centrale, comme vous le disiez tout à l'heure, ne fait pas rêver, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle n'a pas un horizon utopique de changement, de modification profonde des vies humaines. Et en même temps, et ça, Revaud-Allonnes le dit aussi, elle évoque dès Kant et dès la Boétie l'idée que, en fait, c'est fatigant, la démocratie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'implication que ça suppose, l'autonomie de l'individu, le fait de se donner à soi-même sa propre loi, etc., ça suppose une implication dans la vie, où on pourrait, comme le dit Kant, effectivement, c'est plus simple de s'en remettre à son directeur de conscience, ou ce que dit aussi la Boétie, c'est justement parce que nous consentons que la non-démocratie, enfin, il ne formule pas comme ça, mais advient, que la servitude advient. Donc, il y a aussi une dimension qui n'est pas simplement un rapport de servitude par lequel un pouvoir asservirait des peuples, mais c'est aussi la façon dont les peuples eux-mêmes vivent leur propre rapport à la démocratie.
Absolument. Et d'ailleurs, on pensait l'ambivalence de ce terme au départ quand on cherchait le titre. Alors, c'est une jolie phrase, hein, si meurt la démocratie, mais cette idée autour de la fatigue, il y avait cette idée justement qu'elle était à la fois interne, externe, génitif, objectif, subjectif. Enfin, on va pas se replonger dans dans les leçons de grammaire et de stylistique, mais voilà, cette idée qu'effectivement, la mort de la démocratie, cette question, plutôt sur la mort de la démocratie, est-ce que la démocratie meurt d'elle-même ou est-ce qu'elle est tuée par plus fort qu'elle? En fait, c'est ça aussi la question du livre. Et on oscille entre les deux types de réponses. Il y a une fatigue inhérente à la démocratie, parce que, alors peut-être qu'il y a un manque d'éducation à la démocratie, peut-être qu'on est devenus des enfants gâtés aussi, hein, on s'habitue à nos privilèges et on ne sait plus qu'ils ont été l'objet de combats tragiques souvent, qu'ils ont été arrachés à la force du poignet et des luttes politiques. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a comme quelque chose comme ça, une vague petite musique qui dit, bon, bah, finalement, pourquoi pas autre chose, quoi. Alors, et puis, il y a un autre enjeu, mais celui-là, il n'est pas trop abordé là, dans ce livre, mais aussi parce qu'on a voulu, alors, indépendamment de ça, faire des livres assez courts pour pas qu'ils soient trop onéreux non plus. Mmh. On voulait faire vraiment une sorte de format poche pour que ça soit accessible à tout le monde. Et donc, il y a un autre enjeu qui est évidemment un enjeu climatique.
Oui.
Est-ce qu'une démocratie peut prendre en charge l'enjeu climatique? C'est une vraie question. Est-ce que s'il y a du dissensus sur oui, mais moi je suis pas d'accord là-dessus, ouais, mais moi aussi. Est-ce qu'il faut voter sur toutes les décisions? Est-ce qu'un pouvoir fort ne serait pas plus efficace justement? Enfin voilà, c'est des questions qui sont intéressantes à poser.
C'est pareil, une musique qu'on commence à entendre aussi sur le rapport à la Chine. C'est-à-dire qu'un certain nombre de climatologues extrêmement sérieux disent que probablement l'un des espoirs qui peut y avoir par rapport au changement climatique, c'est la Chine, puisque et qu'on a entendu par ailleurs aussi au tout début du Covid, qui est finalement le régime autoritaire, a les ressources d'imposition de certaines politiques, entre guillemets, nécessaires, que n'ont pas la démocratie, une fois de plus, le discours de l'affaiblissement, etc.
Le terrorisme plus Covid, loi d'exception.
Voilà.
On met la démocratie en suspens. Enfin, ça questionne réellement la force de la démocratie. Alors, c'est le fameux mot aujourd'hui très à la mode de la résilience. Est-ce que la démocratie est capable de s'auto-générer et d'affronter ces nouveaux défis? Et ça, il y a des réponses dans le texte, même si ce n'est pas directement abordé par rapport à la crise climatique. Mais il y a cette idée que elles y croient quand même à la démocratie, qu'elle arrive quand même elle a réussi à surmonter les obstacles qui venaient d'elle-même ou de l'extérieur ou d'elle-même. Mais c'est vrai que c'est un combat de tous les jours. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut pas se reposer sur des acquis et s'arrêter de lutter. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un combat à la fois individuel et à la fois collectif, quoi.
Ouais. Avec quand même une vision de l'individu qui est pas du tout la même chez les deux.
Ouais.
C'est-à-dire que dans les choses qui, selon Chantal Delsol, font mourir la démocratie, il y a l'idée de la revendication très individuelle, centrée sur ce qu'on est, c'est-à-dire d'où les questions de genre, d'où les questions de position dans la société, etc. Alors que, effectivement, Myriam Rofodalon, elle relie ça toujours plus à la question de l'émancipation.
Ouais.
Et là-dessus, là aussi, c'est une vraie séparation, comme est une séparation, finalement, et c'est là où on recouvre la question de droite-gauche. Du côté de Chantal Delsol, plus la question de ce qu'on a appelé l'insécurité culturelle, alors qu'on sent que chez Myriam Rofodalon, la question sociale est beaucoup plus prégnante. Et ça aussi, c'est un vrai partage dans le partage politique.
Absolument.
Et dont le dépassement droite-gauche ne peut pas rendre compte.
Et qui permettent de montrer que droite-gauche, c'est un vrai clivage. Et ce n'est pas que un clivage programmatique ou de choix de famille, ou d'hommes, ou de femmes. C'est vraiment un clivage au niveau des principes et des idées, quoi, et de l'interprétation de ce que, effectivement, ça veut dire un individu, la liberté individuelle, les droits individuels. Est-ce que les droits individuels, c'est des droits égoïstes, ou est-ce que les droits individuels, c'est des droits qui permettent l'émancipation? Enfin, voilà, on peut l'interpréter dans les deux sens, mais les deux sens sont contradictoires. Et donc, c'est là-dessus, elles sont pas d'accord, hein, justement. Qu'est-ce que ça veut dire appartenir à une culture? Est-ce que c'est une force, ou est-ce qu'au contraire, c'est un empêchement? Est-ce que c'est une prison, ou au contraire, ça donne des racines, et ça irrigue? Enfin, voilà, et donc, à l'intérieur de tout ça, effectivement, où se situe l'individu? Est-ce que le danger suprême, c'est l'individualisme atomisé? Là-dessus, elle serait assez d'accord, en tant que toutes les deux bonnes arendtiennes, hein, puisque ce sont deux grandes lectrices de Arendt. C'est d'ailleurs comme ça qu'elles se connaissent et qu'elles s'entendent, même si elles ne s'entendent pas.
Pour le coup, ils ont un commun qui est...
Voilà, c'est ça. Leur commun, c'est Hannah Arendt. Donc, toutes les deux ont peur de cet individualisme à outrance, complètement dépossédé de toute valeur du commun. Ça, c'est sûr. Mais en revanche, effectivement, elles n'ont pas la même idée de l'individu. L'individu qui serait d'un côté propriétaire de lui-même, et puis qui irait aussi du côté d'une forme de néolibéralisme qui, par la force de son poignet, de sa volonté, pourrait arriver à faire ce qu'il veut, oubliant qu'il y a tout un collectif derrière. Et puis un individu plus émancipé, enfin, dont le but est effectivement l'émancipation. Bon, toute cette espèce de dialectique entre commun et individu, appartenance et émancipation, elles n'ont pas le même curseur, mais elles s'y intéressent également toutes les deux, quoi.
Alors, vous avez évoqué tout à l'heure la question écologique qui est absente, mais comme vous le sous-entendiez, qui est délibérément jusqu'à un certain point absente du livre, ouais. Parce que justement, l'idée des prochains titres de la collection, quel est-il ? C'est justement d'aborder les grands thèmes du débat
démocratique. C'est d'aborder toutes les questions qui fâchent.
Ah, très bien. Ah, parfait.
Alors, les questions
qui fâchent,
on en a beaucoup à venir. Alors, le prochain livre de la collection portera sur la cause animale. Alors, il est déjà fini, je peux vous dire qu'il est magnifique. Enfin, moi, je l'adore. Il est tellement émouvant. Alors, sur la cause animale, alors, j'explique parce que ce sont deux auteurs qui sont toutes les deux, qui aiment les animaux toutes les deux. Aucune n'est pour l'idée d'une exploitation atroce dans des conditions inhumaines et industrielles des animaux, de l'abattage.
Personne n'est pour.
Voilà, personne n'est pour. Donc c'est pas ça l'enjeu du débat. L'enjeu du débat, donc, c'est Jocelyne Porcher, qui est une femme assez extraordinaire et d'ailleurs qui sera... J'en profite pour faire un peu de pub à Philosophia la semaine prochaine, puisque le prochain week-end, vous savez, c'est le festival de philosophie qui se tient à Saint-Émilion, dont le thème est la Terre. Et donc, il y aura toute une série de philosophes qui viendront débattre, faire des interventions, des conférences. Voilà, donc ça sera tout à fait passionnant. Et donc, on reçoit notamment Jocelyne Porcher. Alors, c'est quelqu'un qui a un parcours très intéressant, parce qu'elle a d'abord travaillé... elle était secrétaire dans je sais plus exactement quel était son premier travail. Et puis après, elle a été éleveuse d'une toute petite exploitation, un élevage familial, j'allais dire, d'une échelle tout à fait modeste. Et puis elle a repris des études, et puis elle est maintenant directrice de recherche à l'INRA. Donc elle a vraiment la double casquette, à la fois elle a mis les mains dedans et à la fois elle y a réfléchi. Et puis Corinne Peluchon, qui est une philosophe absolument extraordinaire, c'est une lame, elle a un esprit tout à fait singulier, extrêmement sensible aussi et très engagée. Alors, Corinne Peluchon, elle est végane, elle est pour la libération animale, je le dis vite et de manière caricaturale, parce qu'évidemment, elle est beaucoup plus nuancée, et puis elle explique vraiment. Mmh. Alors, c'est tout à fait passionnant la façon dont elle l'explique. Moi, je suis pas du tout végane, mais quand je la lis, je me dis ah bah oui, finalement. Et puis bon, après, quand je dis Jocelyne, je dis ah bah oui, finalement. Et puis bon, bref, à chaque fois, on passe. Et donc, elle est pour la libération animale, donc contre toute forme d'exploitation, y compris les élevages paysans. Ce que défend de son côté Jocelyne Porcher en disant maintenant le rapport de travail avec l'animal, c'est ce qui a humanisé les hommes. Ça participe de notre humanité de travailler avec les animaux, quitte à les tuer pour leur viande, mais dans des conditions évidemment extrêmement respectueuses. Et donc il y a toute une discussion sur qu'est-ce que ça peut vouloir dire, qu'est-ce que c'est que de mettre à mort un animal, quoi. Est-ce que c'est interdit parce que ça serait finalement la finalité d'une domination générale qui est aussi une domination économique, etc. Et donc là-dessus, Corinne Peluchon est extrêmement vigilante à toute forme de domination. Et Jocelyne Porcher, qui est aussi vigilante à la forme de domination, dit il faut accepter cette mise à mort. Bon, voilà, donc c'est assez tragique même à des moments parce que. Elle parle de leurs animaux, et des contradictions parfois aussi à être végane. Par exemple, si on est végane, on ne peut pas avoir de chat. Parce qu'un chat, c'est carnivore. Il meurt en chat si on ne lui donne pas de viande. Et donc, si on veut être végane jusqu'au bout, on ne peut plus avoir d'animaux domestiques. Donc, par exemple, Corinne Peluchon, qui a un chat qu'elle adore, dit « j'assume cette contradiction ». Mais donc, c'est vraiment intéressant parce que c'est une discussion très humaine et en même temps extrêmement serrée. Elles sont très, très, très fortes toutes les deux. Mais là, pour le coup, encore plus incarnées presque que sur la démocratie, parce que forcément, sur les animaux, il y a cette espèce d'affect comme ça immédiat. Voilà. Bon, la démocratie est très incarnée aussi. J'adore ce texte. Non, mais c'est pas un défaut pour moi, parce que c'est sur quelque chose de plus théorique, forcément.
Plus théorique, oui, c'est ça.
Donc voilà, sur la cause animale. Et puis, ceux d'après, on en a un sur le multiculturalisme et l'universalisme. Donc en fait, en gros, les gros débats qui fâchent en ce moment, c'est beaucoup autour de cette question de l'universel, particularisme, minorité, etc. Donc on va le décliner sous différents aspects. Et donc là, ça réunira Alain Policard et Isabelle Barberis. Mmh. Un autre sur le retour du concept de race dans les sciences humaines. Et ça, ça va opposer Norman Ajari et alors ça, c'est des jeunes têtes pensantes, c'est les jeunes qui montent, là, qui sont extrêmement, extrêmement doués, et Laurent Dubreuil. Donc tous les deux, ils enseignent à l'étranger, l'un aux États-Unis et l'autre à Édimbourg en ce moment. Et donc, mais c'est vraiment, ça vaut le coup de les découvrir. Je suis évidemment en train d'en oublier. Il y en aura un. Ça en fait déjà pas mal. Ah oui, bien sûr, j'oublie un qui est quasiment fini et qui, là, pour le coup, c'est une sorte de bataille sanguinaire quasiment, mais bon, en même temps, un vrai dialogue sur la laïcité entre Jean Bobéro et Nathalie Héniche.
D'accord, oui, d'accord.
Et donc là, ça castagne, mais c'est super. Et donc là, l'une plutôt pour une laïcité extrêmement forte, radicale, sans compromis, et l'autre pour une laïcité plus souple. Et évidemment, entre les affaires des burkinis, la très récente, les hijabeuses, les footballeuses en hijab, machin et tout, bon, là, il y a de quoi se mettre de... du pain peu importe. Ouais, je vous ai dit des expressions, c'est pas mon truc. Et donc, et là, par exemple, c'est marrant parce qu'à chaque fois, ils ont des styles très différents. Par exemple, Myriam et Chantal sont quand même très, très polies.
Oui, oui,
et elles restent dans dans la retenue et puis dans l'ironie. Mmh. Nathalie Héniche et Jean Bobéro, là, ils prennent pas de gants. Donc c'est marrant parce qu'à chaque fois, et en revanche, Jocelyne et Corinne, Peluchon et Porcher, elles laissent aller la colère, mais en même temps, elles essayent quand même de trouver un terrain d'entente. Enfin, c'est presque, une sorte de combat et en même temps une vraie relation. Enfin, c'est très beau. À chaque fois, c'est très intéressant de voir ce qui se déploie dans ces dialogues.
En tout cas, merci beaucoup pour cette très belle apologie du débat et de la disputation.